Comment retrouver la confiance en soi après un traumatisme? En quoi c'est important d'avoir confiance en soi pour réparer un traumatisme? Expliquez-nous, Boris.
Alors la question est très bien formulée. Comment retrouver la confiance en soi, c'est-à-dire que on l'a eue, on l'a perdue à cause du trauma, et on cherche à la retrouver. Alors qu'est-ce qu'on a eu dans la confiance en soi? Eh bien, ça vient pas de nous, ça vient des 1000 premiers jours où, si notre mère a été sécurisée par son mari, sa famille, ses copains, sa culture, tout se déroule impeccablement, le bébé se débrouille, il a autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer. Et il acquiert une petite confiance préverbale, il sourit, il soutient le regard, vers l'âge de 10 mois, il pointe du doigt, ça veut dire qu'il interagit avec les autres, il cherche à communiquer. Il n'a pas encore accès à la parole que déjà il a confiance en lui. C'est le cas de 70% des bébés préverbaux. Mais ça veut dire que 30% des enfants préverbaux n'ont pas acquis cette confiance en soi parce que leur mère était malheureuse. Qu'est-ce qui peut rendre malheureux une femme enceinte ou une jeune mère? C'est son histoire, c'est la violence conjugale, c'est la précarité sociale, c'est un accident de la vie, un tremblement de terre, une inondation, une mauvaise nouvelle. Ça fait quand même un bébé sur trois qui n'acquiert pas cette confiance en soi, donc c'est important. Mais ça peut se retrouver, c'est-à-dire que lorsque le trauma sidère le cerveau, arrête les développements, si on laisse la personne adulte ou l'adolescent sidéré seul, il n'a pas beaucoup de chances de déclencher un processus de résilience. Pour ça, il faut que s'arranger avec les deux mots-clés de la résilience, le soutien affectif et le sens à quoi chercher pour donner sens à ce qui vient de nous arriver. Parce que quand on donne sens au malheur qui vient de nous arriver, eh bien on sait ce qu'il faut faire, on sait maîtriser l'épreuve, et puis on arrive aussi à une représentation de ce qui nous est arrivé. Donc on maîtrise l'accident, on maîtrise le malheur, ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais ça veut dire qu'on peut déclencher un processus de reconstruction de soi, et là on retrouve votre question, retrouver la confiance en soi. Donc si on a autour de soi quelqu'un, ça peut être un conjoint, parce qu'un couple qui marche bien, ça peut arriver, vous savez. Donc on parle toujours des couples qui marchent pas bien, mais il y en a qui marchent très bien. Ça peut être pour un adolescent, pour une fille surtout, c'est la meilleure amie. Les filles sont très douées pour se confier à leur meilleure amie, elles se téléphonent, elles se racontent leur misère, leurs rêves. Elles, généralement, elles font ça très bien puisqu'elles pouffent de rire souvent en se racontant leurs petits malheurs. Elles sont étranges, les femmes, vous savez, et elles font ça très bien. Et effectivement, ça, c'est un soutien qui permet de se sentir moins seul et qui permet de travailler, d'élaborer le malheur qui vient de nous arriver, c'est-à-dire de s'en rendre progressivement maître.
Ça veut dire, Boris, que imaginons pendant la grossesse, on vit un gros stress, ou même dans les premières années ou premiers jours du jeune bébé. Imaginons, voilà, un cas de violence conjugale ou, comme vous le disiez, une catastrophe naturelle, un décès. Peu importe le stress, ça veut dire que même si à ce moment-là le bébé est stressé, très vite, il peut reprendre un développement résilient et aller mieux. C'est-à-dire que tout n'est pas foutu si jamais on vit un énorme stress pendant la grossesse. C'est un message d'espoir, en fait, que vous nous donnez.
Ah ben, c'est un message d'espoir et de travail, mais on sait ce qu'il faut faire, on sait le travail qu'il faut faire, on sait comment il faut, à quoi il faut s'attaquer et à comment il faut s'y prendre. Alors, s'ils traînent dans l'eau, que les femmes enceintes déglutissent parce qu'elles ont besoin de manger et de boire et qui abîment le développement du bébé qu'elles portent. Alors ça, c'est pas sur les femmes avec les femmes enceintes. Là, il faut agir sur les politiciens pour leur demander de contrôler cette pollution qui abîment les femmes enceintes et leurs bébés. Mais
Boris Cyrulnik, du point de vue des enfants, il peut y avoir le cas des personnes qui ont perdu un parent, une mère ou un père très tôt, ou qui ont subi des violences physiques dans leur enfance. On a beaucoup de témoignages là-dessus parmi les personnes, voilà, qui nous regardent ce soir. Comment retrouver la confiance quand dans notre enfance tout a été défaillant?
Alors tout n'a pas été défaillant. Et effectivement, comme vous venez presque de le dire, l'orphelinage précoce est une grave agression pour un bébé, pour un enfant. Mais tout n'est pas perdu. Cet enfant est sain. C'est l'accident de la vie qui en a fait un orphelin. Et dans ce cas, il suffit, enfin, il suffit. Il faut savoir que il faut entourer ce bébé et parler avec lui pour donner sens à son orphelinage ou à sa maltraitance précoce, et ça va déclencher un processus de résilience. Et c'est pas une vue de l'esprit. D'abord parce que individuellement, on voit que lorsqu'un bébé est stressé, ou un bébé est stressé parce que sa mère est stressée, si sa mère est stressée, elle n'est pas sécurisante. Alors que si une mère est sécurisée, elle devient sécurisante pour son enfant. Or, dans le cas que vous proposez, l'orphelinage précoce, ou bien la mère est morte, ou bien elle est malheureuse parce qu'elle a perdu son mari, parce qu'il y a une tragédie de l'existence qui vient de lui arriver, et la niche sensorielle dans laquelle le bébé se développe est appauvrie. Donc le bébé n'est pas stimulé. Et on voit que toute sa sécrétion de ses neurohormones est ralentie. Et notamment, il a des troubles du sommeil, il a des troubles de la sécrétion des hormones de croissance et des hormones sexuelles, puisque les hormones sexuelles, les fœtus commencent à les sécréter dès le 14e jour après la fécondation. Eh bien, c'est altéré par le malheur de leur mère. Mais la plasticité cérébrale est tellement importante, les synapses, c'est-à-dire la jonction entre les neurones, il y a des chiffres faramineux. Certains disent 300 000 synapses à la minute, d'autres disent 1 million de synapses à la minute. Je pense qu'ils n'ont pas compté ça avec un papier et un crayon. Je pense que c'est l'ordinateur qui a fait ce travail. Donc moi, je ne sais pas le faire, donc je dis très beaucoup. C'est vraiment très très beaucoup, c'est faramineux. Ce qui veut dire que dès que on sécurise le bébé en sécurisant son milieu, le processus de résilience, ce bébé réorganise son sommeil, son électroencéphalogramme et la sécrétion des hormones, ça veut dire qu'il redéclenche un processus de résilience. Mais si on ne fait rien, comme je l'ai vu en Roumanie, où la pensée folle de Ceausescu isolait les bébés, alors là, ça devient grave, là, ça donne des troubles durables, mais ça donne des troubles durables parce qu'on n'a rien fait. Qui nous demande de rien faire? Si vous m'invitez à m'interchange, c'est justement, c'est pour faire quelque chose.
Absolument.
Et on sait ce qu'il faut faire. Alors, par exemple, sur le plan populationnel, il y avait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait presque 300 000 orphelins en France. Quand on fait des suivis de ces orphelins, on se rend compte qu'un très grand nombre d'entre eux ont repris un bon développement résilient. Pas tous, hein, parce qu'il y a eu des tragédies, il y a eu des échecs, il y a eu. En sciences humaines, c'est jamais du 100%. C'est beaucoup pour cent. Aujourd'hui, il y a 300 000 enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, et les résultats sont très mauvais. Parce que quand on confie un bébé ou un enfant à l'aide sociale à l'enfance, il a déjà été malheureux pendant des mois ou des années, et on n'a rien fait. Et quand on le confie à l'aide sociale, c'est déjà trop tard. Ou bien il faut sécuriser les parents pour qu'eux-mêmes deviennent protecteurs pour leur enfant, ou bien il faut confier l'enfant très tôt à l'aide sociale et il faut donner une formation, et surtout plus d'éducateurs, parce qu'ils sont débordés par des enfants de plus en plus difficiles. Donc on voit que la culture joue un rôle majeur dès les premiers mois de l'existence.
Et ça, c'est important ce que vous dites parce que j'ai lu ça dans un de vos livres. Vous disiez que lorsqu'on rencontre un traumatisme, lorsqu'on subit un traumatisme à l'âge adulte, on peut arriver à puiser dans l'affection qu'on a reçue quand on était enfant, même si on a été aimé un peu ou pas longtemps, ou même si on a été abandonné. Vous dites que ça, cette once d'amour qu'on peut avoir reçue, même tout petit, même très brève, on peut puiser là-dedans à l'âge adulte.
Voilà, il y a une trace que maintenant on sait photographier en neuroimagerie. On voit que le cerveau d'un bébé totalement seul est dysfonctionnel. C'est-à-dire que les deux lobes préfrontaux ne sont pas stimulés, donc ils sont atrophiés. Les deux circuits limbiques de la mémoire et des émotions sont atrophiés parce que le bébé n'a pas été stimulé. On n'a pas joué avec lui, on ne l'a pas sécurisé, on ne lui a pas parlé parce que la parole est un acte affectif très important. Même si le bébé ne comprend pas, il comprend qu'on lui parle. Pour lui, c'est un stimulus important, même s'il ne comprend pas le contenu des mots. Et on voit que si on l'a, en revanche, si on a trouvé un substitut affectif, si ça nous donne envie de parler, ça nous donne envie de lire, ça nous donne envie de s'y sortir, ça nous donne envie de rigoler, ça nous donne parfois envie de se disputer. Mais voilà, ça c'est la condition humaine. Mais ça nous donne envie de vivre. Si on a une trace inscrite dans notre mémoire, lorsqu'on retrouve 10, 20 ans, 30 ans plus tard, quelqu'un qui nous propose un soutien affectif, un mot, une bêtise, une sortie, un week-end, une bêtise de la vie, ça prend une importance énorme parce que ça réveille la trace affective qui était enfouie, mais qui n'est pas oubliée.
Boris, il y a quelque chose qu'on entend souvent, souvent à l'âge adulte ou même d'ailleurs dans les jeunes années, avec ce qu'il a vécu, il fera jamais rien, il pourra pas s'en sortir parce qu'il a eu ça. Comment on se débarrasse justement quand on a vécu un traumatisme du regard de l'autre? Comment justement on reprend confiance? Je crois que vous personnellement, ça a joué aussi pendant vos études quand vous vouliez être médecin, vous aviez eu des comme ça des témoignages de découragement et vous avez surmonté tout ça. Comment on fait, voilà, on se débarrasse de ce regard qui pèse sur les personnes traumatisées parfois?
Eh bien, votre question poursuit la réponse précédente, c'est que il faut agir sur la culture pour faire savoir à la culture, aux récits, aux journaux, aux romans, au cinéma, pour faire savoir que un enfant n'est foutu que si on le laisse seul. Alors là, il a du mal à se développer. En revanche, comme vous m'avez invité à le dire, s'il y a une trace d'affectivité, la moindre main tendue, le moindre mot, il va s'en saisir, et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à travailler. Il faudra travailler, bien sûr. Il faudra réfléchir, il faudra faire du sport, il faudra sortir, ça ne va pas tomber du ciel. Mais on sait ce qu'il faut faire, et ça marche. Donc, cette phrase-là est une phrase criminelle, que je l'ai entendue quand j'étais enfant, que j'ai entendue quand j'étais médecin, et qui me touche personnellement. Avec ce qui lui est arrivé, il est foutu pour la vie. C'est une malédiction. C'est une phrase de malédiction. Elle est étonnamment fausse. Je le redis volontairement, elle n'est vraie que si on abandonne l'enfant. Si on l'entoure un peu, et s'il y a une trace d'affectivité, il faudra travailler. Certains veulent tenter l'aventure psychothérapique, bravo, tant mieux, mais c'est pas d'autres s'en sortent avec la vie courante, avec les petits moyens de la vie courante qui sont aussi nécessaires et efficace. Donc, on sait ce qu'il faut faire, et cette phrase-là est une phrase criminelle.
Alors, justement, Boris, on l'a vu, hein, voilà, retrouver la confiance en soi, se débarrasser du regard de l'autre, puiser dans l'affection qu'on a eue enfant, c'est capital. Et vous allez nous expliquer, ça m'amène à notre deuxième partie, qu'on peut en fait, avec des outils, des exercices, se reconstruire durablement après un traumatisme. Donc voilà, on va démarrer cette deuxième partie et vous allez, Boris, voilà, nous donner des outils et des exercices pratiques. Justement pour arrêter de ressasser le passé, de ruminer et de reprendre goût à la vie. On vous écoute.
Alors voilà, maintenant qu'on a compris le principe, il faut appliquer dans la vie quotidienne et les exercices pratiques ce qu'on a compris. Après la tragédie du Bataclan, les Parisiens se sont plutôt bien débrouillés. Les blessés, les traumatisés ont eu des tas de réunions, des tas de soutiens, des tas d'aides psychologiques, affectives, sociales. Très peu ont été laissés seuls. Et on sait que un an après cette épouvantable tragédie, 90% d'entre eux avaient repris un développement résilient. Ça ne veut pas dire qu'ils ont oublié. On peut pas, ils pourront jamais oublier ce qui s'est passé, mais ils l'ont surmonté parce qu'ils ont été entourés et ils ont repris un nouveau développement. Beaucoup d'ailleurs, après ce traumatisme, disaient leur désir de changer de vie, d'apprendre un nouveau métier. Et beaucoup disaient, après ce qui m'est arrivé, je ne raterai plus jamais l'occasion de dire à quelqu'un que je l'aime. Je lui téléphonerai. J'irai boire. Alors nous, à Marseille, on dit j'irai boire un pastis avec lui. Mais à Paris, on dit une bêtise de la vie. Mais ces bêtises sont fondamentales. Parce qu'on va rencontrer quelqu'un, et on va parler et tisser un lien qui est le véritable tranquillisant. Alors, le principe, l'exercice pratique, c'est 1. Lutter contre la solitude. Parce que dans la solitude, on rumine. On ne pense qu'à ça, on ressasse pourquoi je souffre, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, et on se rend prisonnier du passé. On revoit toujours l'image d'horreur qui nous a traumatisés. Alors que dès qu'on est avec quelqu'un d'autre, il faut trouver des mots pour le convaincre, parce qu'il comprend pas, il comprend pas ce qu'on voulait dire, donc il faut trouver d'autres mots, et puis des moments, on s'explique, on s'amuse, on rigole, on se fâche, on n'est pas d'accord, eh bien c'est une élaboration qui nous permet de travailler ce qui nous est arrivé, donc on est de moins en moins prisonnier du passé. Et puis il y a trois mots clés que je cite souvent dans mes cours, et même dans les retombées pratiques, ces trois mots clés qui sont source de retombées pratiques, c'est action, réflexion, affection. On a déjà commencé à en parler. Mais l'action est beaucoup plus sécurisante et beaucoup plus fortifiante que ce qu'on croyait. Dans notre culture de la sédentarité, on croit qu'il faut être clair. Quand on fait des neuroimageries au pianiste, on voit que la zone temporale gauche correspondante au doigt, aux neurones qui commandent au doigt, les pianistes ont une zone hypertrophiée. Ce qui fait que quand on a été abandonné, que notre lobe préfrontal n'a pas été stimulé, et qu'on se met nous-mêmes dans une situation de bavardage, d'inviter quelqu'un au restaurant, ou de préparer la cuisine ensemble, ou de faire les bêtises fondamentales de la vie quotidienne, eh bien, on voit que ces zones cérébrales sont stimulées et que le cerveau cesse d'être dysfonctionnel et se remet progressivement, comme un entraînement sportif, il se remet à bien fonctionner. Mais je souligne comme un entraînement sportif, c'est-à-dire c'est pas une fois que ça va se déclencher, le plus dur c'est justement de se mettre à faire du sport, et ensuite tous les jours on recommence et on se demande pourquoi on va de mieux en mieux. Alors après un jogging, on fait rarement une neuroimagerie, mais quand on fait ça à un sportif de haut niveau, on photographie comment son entraînement physique a supprimé un dysfonctionnement cérébral et a stimulé les zones corticales correspondantes. Donc l'action est beaucoup plus fortifiante et beaucoup plus tranquillisante que ce qu'on croyait. La réflexion est aussi, c'est une élaboration qui modifie la manière dont on se représente le malheur. Quand on est seul, on rumine. On aggrave la souffrance. La solitude aggrave la souffrance et la solitude provoque des troubles, des dysfonctions cérébrales. Alors que la réflexion, surtout une lecture, pourquoi est-ce qu'on va au cinéma? C'est pour en parler avec quelqu'un. D'ailleurs, regardez comme c'est difficile d'aller au cinéma tout seul. On a besoin de quelqu'un pour aller au cinéma ou au théâtre, parce que après, il faut en parler. Et là, la parole a une fonction bien plus, souffrent tellement ou sont tellement traumatisés que là, il faut parfois un psychothérapeute. Dans le traumatisme, le MDR a des succès surprenants. Alors, moi, j'ai pris ma retraite au moment où le MDR arrivait des États-Unis.
On peut expliquer brièvement que c'est une technique où on revit en fait ce qu'on a vécu et il y a un mouvement oculaire comme ça qui intervient.
C'est presque ça. On ne revit pas ce qu'on a vécu, mais avec un mouvement oculaire dirigé par le psychothérapeute, il y a des saccades oculaires qui se font, et ces saccades oculaires stimulent la base du cerveau. Donc ça lutte contre la dysfonction cérébrale provoquée par le traumatisme. Et j'ai pas une grande expérience de ça, mais les jeunes psychothérapeutes me disent qu'il y a des tas de congrès là-dessus, des tas de publications qui montrent, qui confirment que cette méthode très simple marche très bien. Alors, je pense que quand on a été traumatisé, on se fait souffrir encore plus parce qu'on croit que, on souffre parfois tellement qu'on croit qu'il faut des solutions, des méthodes énormes pour aller mieux. Alors que l'idée que je propose, c'est le contraire. On peut souffrir énormément et c'est des petits progrès qui font, des petits pas qui font qu'on va de mieux en mieux. Comme un entraînement sportif, un entraînement à la parole, on sait ce qu'il faut faire. Il faut tous les jours un peu le faire et on va de mieux en mieux. Et le MDR marche, paraît-il, Très bien, il y a des tas de psychothérapeutes qui se sont donné une formation et qui ont une expérience pour ça.
Boris, on peut faire nous-mêmes ce travail, mais parfois on a autour de nous des proches, parfois même dans le couple ou dans la famille, qui eux ne veulent pas parler d'une difficulté qu'ils traversent ou d'un traumatisme. Et souvent on se retrouve un peu confronté à un mur où peut-être qu'on sait que la solution c'est de parler ou de trouver un dégagement, qu'ils aillent rencontrer telle ou telle personne, mais on se retrouve face à un mur, à un blocage. Est-ce qu'on est capable d'aider justement nos proches qui se trouvent dans cette situation?
Alors, c'est une question fondamentale parce que plus le poids des mots est lourd. Si ma boulangère me dit, Monsieur Cyrulnik, je vous aime pas, je vais me dire, tiens, elle est drôle, celle-là, elle sait pas ce qu'elle perd. Alors que si ma femme ou mes enfants me disent les mêmes mots, je vais être très malheureux. Ce sont les mêmes mots. La proximité affective donne trop de poids aux mots, c'est pour ça qu'il faut, comme on dit dans notre jargon en psychologie, il faut faire travailler avec un tiers, quelqu'un qui a une petite distance affective. Si je vais voir une amie, un ami ou un psychologue, je vais pouvoir dire avec sept psychologues, parce que statistiquement c'est des femmes, je vais pouvoir dire à sept psychologues des choses que je ne pourrais pas dire dans ma famille. Et ma psychologue va se permettre de me dire des choses que je ne supporterai pas de ma famille, alors que ça va, je vais l'accepter de ma psychologue, parce qu'il y a une petite distance affective. Donc oui, la famille est importante pour le soutien préverbal, social, tu as besoin d'argent, tu as besoin que je sois là, tu as besoin de pas rester seul, je vais te préparer un repas, on va partir marcher dans la forêt. Oui, la famille est importante, mais le travail psychologique se fait en dehors de la famille.
C'est assez intéressant. Je suis sûre que ce sera très utile aux personnes qui nous regardent. Il y a une question maintenant, Boris, qu'on peut aborder. Une fois qu'on a donc décidé d'enclencher ce processus de résilience, ce qu'on a envie de savoir, en fait, c'est est-ce qu'on peut en tirer les bénéfices, c'est-à-dire tout au long de sa vie, est-ce que on peut justement arriver à vivre l'instant présent et construire son futur grâce à la résilience? Est-ce que ça, c'est possible d'avoir des effets durables dans le temps?
Alors, on modifie la mémoire quand on s'entraîne ou quand on parle, on modifie énormément la mémoire. Parce que quand il nous arrive un événement, on a la mémoire du fait, et quand on commente cet événement, on a la mémoire des mots qu'on a choisis pour raconter le fait. C'est-à-dire que déjà, on modifie la mémoire simplement en en parlant. C'est pour ça que le fait de parler quand on a été traumatisé est vital, c'est capital, parce que ça modifie quand une femme a été agressée sexuellement, physiquement, quand un homme a été orphelin, etc. Le simple fait d'en parler ajoute la mémoire, ce que j'ai compris, ce que j'ai dit, qu'elle a compris ou qu'elle n'a pas compris, ajoute une autre mémoire à la mémoire du fait et modifie donc la mémoire du fait. C'est pour ça que les syndromes psychotraumatiques se voient chez les gens qu'on a laissé seul. C'est pour ça que la première décision, je le répète volontairement, c'est surtout ne pas rester seul. Prendre un téléphone, donner un rendez-vous, faire un jogging, ne pas rester seul. Parce que à ce moment-là, on va modifier la mémoire, on va pas oublier, mais on va modifier. Ce sont les petites choses qui permettent de déclencher un processus de résilience. C'est plus facile qu'on croit. Ce qui est plus difficile, c'est d'en faire un entraînement sportif, tous les jours un peu.
Et
Et
oui,
si
pardon,
on
allez-y.
peut le faire, on voit que de mois en mois, on règle le problème, ce qui ne veut pas dire qu'on va régler tout le problème, ce qui ne veut pas dire qu'on est euphorique pour toute la vie. Personne n'est à l'abri des épreuves de la vie. Même tout à l'heure, je disais, même les bébés qui ont été bien protégés, qui sont bien démarrés dans la vie, qui font partie des 70% d'enfants qui ont acquis leur confiance primitive, leur petite confiance, tant mieux pour eux, ils ne sont pas protégés pour la vie. Ils peuvent être collés au bac, ils peuvent avoir un accident, ils ne sont pas protégés pour la vie, mais ils ont acquis des facteurs de protection qui vont les aider à surmonter. Puisqu'on m'a aimé, je suis aimable, donc je vais téléphoner pour chercher à rencontrer où je vais rentrer dans une association de marcheurs, où je vais rentrer dans un club. Donc j'ai acquis un facteur de protection parce que j'ai été protégé, mais je ne suis pas protégé pour la vie. La vie qui est passionnante, n'est pas toujours facile.
Boris, vous disiez aussi que, bah voilà, justement, on est protégé, on acquiert, voilà, une sorte de protection, on travaille sur soi, mais que ça peut revenir par petites touches. Vous disiez, je vous ai entendu dans plusieurs médias, que par exemple, chez vous, ce qui se passe en Ukraine, la guerre en Ukraine, réactive certaines de vos blessures. Alors, dans ce cas-là, vous concernant, vous puisez justement dans vos facteurs de protection, c'est bien ça?
Alors, pour l'Ukraine, j'ai puisé dans mes facteurs de vulnérabilité. Quand j'ai appris que l'invasion russe en Ukraine avait commencé, j'ai regardé à la télévision en étant stupéfait, mais je cherchais à comprendre. Et ce qui a déclenché un retour de trauma, de traumatisme, c'est quand j'ai vu les bottes de paille sur la route. Vous savez, vous venez d'arriver au monde, alors vous savez pas, mais les armées occupantes font des créneaux avec des bottes de paille pour que les voitures et les gens ne puissent pas aller vite et sont obligés de passer devant les gardes avec des fusils ou des kalachnikovs. Et quand j'ai vu ces bottes de paille, ça m'a rappelé un souvenir que je croyais disparu et qui était en fait simplement enfoui, c'est que les Allemands, quand ils ont occupé la France, barraient les routes comme ça. Et ça m'a provoqué une bouffée de chagrin, et d'angoisse que je croyais avoir réglé. Donc, ça veut dire que même quand on prend quand on déclenche un processus de résilience, on vit de mieux en mieux, on va de mieux en mieux, on est soulagé, mais on règle pas tout. Et puis de plus, un processus de résilience, c'est pas la protection pour la vie, hein, c'est une courbe montante. Où on est de mieux en mieux, mais voilà, mon témoignage que vous m'avez invité à
Merci.
raconter confirme que c'est dans les sciences humaines, c'est jamais 100%. Mais ça fait rien. Si c'est beaucoup pour cent, on a gagné.
Vous donniez tout à l'heure l'importance du récit, voilà, raconter ce qu'on a vécu, ça peut passer par l'écriture.
Être championne du monde d'haltérophilie. Votre petit rêve, ça sera d'aller faire de la musculation 8 heures par jour dans une salle. Moi, je vous laisserai seul dans ce cas-là. Mais vous pouvez faire un autre petit rêve, découvrir la culture italienne ou espagnole ou ukrainienne, si vous voulez, qui est une belle culture. La culture orthodoxe qui est très belle. Il y a plein. L'écriture est un petit rêve accessible. Vous ne soupçonnez pas le nombre de gens qui, dans l'épreuve, éprouvent l'étonnant besoin d'écrire. Alors, c'est parce que, alors, on a retrouvé des archives, c'est une phrase que je cite souvent tellement je la trouve belle. Un menuisier perd sa femme, parce que c'est une archive du 18e, 19e siècle. Il perd sa femme. Parce que jusqu'au fin 19e siècle, les femmes mouraient très jeunes, alors qu'actuellement elles meurent après les hommes. La vieillesse des femmes est une preuve de civilisation. Et au 19e siècle, elles mouraient à 36 ans, en moyenne, avant la prophylaxie de l'accouchement. Cet homme perd sa femme et il dit, j'écris, alors que c'était pas, les prolétaires écrivaient peu, lui savait écrire. Et il dit, j'écris, en pensant à ma femme, juste pour le plaisir de m'en ressouvenir. Le fait d'écrire, le fait de chercher les mots, on était bien ensemble à ce moment-là, on a fait ça ensemble, on a eu cette épreuve de couple qu'on a surmontée, cette épreuve de couple qu'on n'a pas surmontée, juste pour le plaisir de m'en ressouvenir. Et ce menuisier dit, je suis étonné de voir comment. Après avoir écrit quelques pages, j'ai côtoyé ma femme. Elle n'est morte que dans le réel. Dans ma mémoire, dans la représentation du réel, j'ai été avec elle encore pendant quelques heures. Donc on voit que l'écriture permet, parce qu'il faut faire un effort, il faut élaborer, labeur, travail, labourer. Il faut élaborer, chercher les mots, Ah non, ça, mon lecteur, si j'ai trouvé, il ne pourra pas comprendre. Il faut changer la phrase. Et du coup, on ajoute. Et écrire tous les jours quelques pages pour penser à elle, pour penser que je veux être un grand basketteur, pour penser je vais écrire tous les jours. Du coup, je lis mieux. Et quand j'aurai écrit 150, 200 pages, j'irai voir l'imprimeur du coin qui va me faire un petit manuscrit que je vais donner à mes amis proches pour qu'on fasse connaissance et qu'on puisse en parler. Voilà un petit rêve accessible. Beaucoup de gens font ça. Et quand j'ai travaillé en Colombie, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas écrire. Et en Afrique, il y a la même chose. Ils vont voir un écrivain public. Ils racontent leur vie. L'écrivain public écrit ce qu'il... Ensuite, il fait une brochure. Et j'ai parlé avec ces hommes qui partaient avec un trésor sous le bras. C'était le manuscrit de leur vie. Et je leur disais, mais qu'est-ce que vous allez faire de ce manuscrit? Je vais le donner à mes petits-enfants pour qu'on fasse connaissance. Ils avaient ce petit rêve, avaient métamorphosé les souffrances de leur vie. Ils en avaient fait un récit édifiant, un cadeau pour leurs petits-enfants.
C'est assez fantastique comme exemple parce que ça montre que ben déjà on est tous capables de le faire, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait écrire sans avoir l'ambition ou la pression même d'être publié ou lu. On peut le faire pour soi avec ses mots, même ses fautes d'orthographe peut-être, ses erreurs de formulation, de syntaxe. Bon voilà, ça déculpabilise aussi et puis surtout c'est une petite chose qui est très utile. Et ce que vous disiez au cours de ces trois parties, c'est que finalement, ce sont des petites choses qui nous aident. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, peut-être, quand on a vécu un traumatisme. C'est vrai qu'on se dit qu'il va falloir pousser des montagnes, et c'est le cas pour s'en remettre parfois. Mais avec ces petites choses-là du quotidien, vous me disiez souvent, vous dites souvent dans vos livres ou dans vos conférences, rejoignez un milieu associatif, faites un gâteau pour une association. Ça paraît bébête comme vous dites, tout simple, mais en fait c'est vrai qu'on se sent du coup inclus dans un groupe utile. Et ça c'est important, ça, hein. C'est capital.
On se sent utile, donc on améliore la représentation.
Boris, de près de 3 500 personnes, qui, c'est pas mal, qui ont certainement, envie d'aller plus loin avec vous, de travailler, d'enclencher peut-être un processus de résilience. Et donc, si vous souhaitez travailler là-dessus, vous allez pouvoir trouver tous les conseils, l'expertise et l'expérience de Boris dans les leçons de sa masterclass sur notre site Mentor Show. Alors, je sais pas si vous connaissiez les chiffres, Boris, mais il y a déjà plus de 50 000 personnes qui ont visionné la masterclass, que vous avez créée pour nous. Et donc, nous, du côté de Mentor Show, on est vraiment ravis que toutes ces personnes aient trouvé une motivation, hein, finalement, et une solution à ces problèmes-là. Ça vous fait quoi de savoir qu'il y a 50 000 personnes qui ont visionné votre masterclass?
Ah ben j'ai du mal à rester simple. Hein.
Parce que c'est un travail qui est différent, selon vous, de vos ouvrages ou des conférences que vous donnez.
Mais oui.
C'est différent, c'est unique finalement.
Alors, il y a le travail de l'intimité psychothérapique. C'est important, on est seul, ça donne une authenticité de la parole. Mais la littérature, écrire, ça donne aussi une autre authenticité de la parole. Je fais souvent des cours dans les universités. Et là, j'ai affaire à des étudiants qui veulent devenir professionnels. Donc là, je mets la barre assez haut. Là, c'est pas des petits rêves. Là, c'est suivre qui peut. Hein. Là, s'ils veulent en faire leur métier, donc il faut qu'ils fassent un effort. En revanche, dans les conférences grand public, je trouve que les gens sont pertinents. Ils parlent de ce qu'ils sentent. Il y a une authenticité de la parole et les questions sont presque toujours fondamentales, passionnantes, les gens savent de quoi ils parlent. Mais là, je suis face à un écran, et face à un écran, la communication est incroyablement améliorée, mais l'écran, le numérique, c'est une amélioration de la communication, mais c'est pas une relation. C'est pour ça que MinterShow m'offre une occasion que je connaissais pas, une expérience que je connaissais pas, de communication. Et j'aimerais bien savoir les retombées, j'aimerais bien savoir si beaucoup de gens arrivent à profiter de ça pour déclencher un processus de résilience. Statistiquement, on peut le prévoir, mais j'aimerais bien savoir. Parce que quand en psychothérapie, on travaille, on se donne rendez-vous et on travaille petit à petit et On voit le progrès régulier, pour les étudiants aussi, pour les conférences publiques.
De poser une question, voilà, elle va être lue publiquement. Bon, on ne donnera pas forcément l'identité, mais en tout cas, on expose, on dit son problème et on verra ça donc dans quelques minutes. Avant ça, j'aimerais qu'on présente du coup Boris pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à votre masterclass, le contenu des 15 leçons et des 3 bonus que vous avez pensé. Première leçon, rencontrer Boris Cyrulnik et le conseil de résilience. Donc c'est une présentation voilà de vous, de votre histoire et donc de ce concept de résilience dont on parle depuis le début de la conférence. Comprendre ses propres situations traumatique, voilà, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, mais voilà, identifier ces traumatismes, comprendre ce que l'on vit, pourquoi on le vit, et bien sûr retrouver sa confiance en soi. On l'a bien développé aussi. C'est vraiment la base pour enclencher un processus de résilience, et c'est là-dedans qu'on peut puiser si justement on vit un traumatisme un peu plus tard, à l'âge adulte notamment. Dans les 3 prochaines leçons, on a leçon 4, reprendre goût à la vie avec le concept d'attachement. Vous nous avez expliqué à quel point l'affection, l'attachement était important, surtout pendant la grossesse, les premières années de la vie d'un enfant. Arrêter de ressasser son passé, ça c'est un des meilleurs conseils, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours ruminer, à se refaire la même histoire, et on oublie parfois ou souvent de transformer ce récit en quelque chose finalement d'utile et efficace. Et j'imagine que si on fait ça, et ben on peut quand même se construire des relations un peu plus saines, et que ça nous aide aussi avec notre entourage, ben justement peut-être de passer à autre chose et d'alléger aussi le quotidien. Juste après, Boris, voilà, si les personnes suivent cette masterclass et si vous poursuivez dans ce parcours, voilà, avec Boris Cyrulnik, vous allez certainement augmenter votre niveau de bien-être, parce qu'il y a le fait de travailler sur soi, d'enclencher justement ce processus de résilience, et puis ça fait du bien, ça permet de surmonter ses souffrances et pourquoi pas écrire pour se soigner. On vient d'en parler, un récit sans forcément d'ambition ou de pression, écrire, voilà, ce qu'on pense, et pourquoi pas, comme vous le disiez, c'était un super bon conseil, aller chez l'imprimeur et faire imprimer ce petit manuel pour ses petits-enfants ou ses enfants, enfin, ou qui ont son épouse ou qui on souhaite. Ensuite, pareil, vous avez parlé de l'écriture, de la littérature, mais il y a aussi se reconstruire avec l'art, la culture. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui témoignent, voilà, qui disent, moi je me suis inscrite à un cours de poterie et ça m'a fait un bien fou. La poterie, c'est souvent quelque chose qui revient souvent, voilà, dans les besoins des personnes, voilà, qui ont besoin de se réparer en construisant quelque chose, certainement avec ses mains. Alors là, après, il y a 2 leçons qui arrivent et qui sont, à mon avis, qui vont parler à pas mal d'entre nous. Consolider sa relation amoureuse et construire une famille sans se mettre de côté. C'est sûr que on se dit souvent, j'ai vécu ça dans mon enfance, donc je vais être un mauvais époux, une mauvaise épouse, une mauvaise mère. Je vais pas être un amant facile ou une compagne évidente. Et donc ça, ce sont autant de conseils qui nous permettent aussi d'améliorer cette partie-là de notre existence. Et enfin, 3 dernières leçons qui vont aussi parler aux jeunes parents ou aux parents, voilà, dont je fais partie aussi, favoriser le développement d'un jeune bébé et l'accompagner, et accompagner au mieux son passage à l'âge adulte. Et là, dans ces leçons, vous nous donnez des clés pour mettre toutes les chances de notre côté et mettre toutes les chances du côté de notre enfant pour se développer et être le plus équilibré possible. Donc, vous avez vraiment pensé, Boris, avec nous, un parcours de vie, et ça, c'est vraiment intéressant. Vous voulez ajouter un mot peut-être à la lecture de ces leçons?
Ah non, je trouve que votre travail me paraît excellent, c'est-à-dire le découpage, la clarté. J'ai appris beaucoup de choses en vous écoutant, c'est-à-dire que...
Il y a toute l'équipe de Mentor Show derrière nous, hein. C'est un travail d'équipe, hein, ce qu'on fait, hein.
Oui, mais ça, alors, voilà, ça c'est l'échange. Alors ça, c'est ce que j'ai appris avec Mentor Show, c'est que la communication ne se fait pas de haut en bas. C'est dans l'échange, c'est dans le partage qu'on peut communiquer. La communication de haut en bas, le maître qui sait tout et les élèves qui se soumettent en obéissant, c'est fini. C'est fini, ça marche plus. Maintenant, c'est dans le partage qu'on peut comprendre. On peut rigoler, comme je le redis volontairement, c'est amusant, c'est surprenant. Parfois, on n'est pas d'accord, on se dispute, ça n'a aucune importance. Même la dispute n'a aucune importance. Il n'y a pas de dispute grave. Les disputes ne sont graves que par l'importance qu'on leur accorde. Si on décide que on n'est pas d'accord, on a le droit en démocratie. Les familles démocratiques ou les cultures démocratiques, on est toujours en désaccord, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que, mais il faut quand même passer à un moment, on arrive à un consensus pour continuer à vivre ensemble. Et là, on retrouve ce que vous m'avez invité à dire pendant toute la soirée, c'est la nécessité du lien d'attachement. Je le redis volontairement, seul, on aggrave tout. La nécessité du lien d'attachement qui est forcément imparfait, qui est parfois très très bien, et puis tout d'un coup, il y a un mot de travers, il y a quelque chose, parce qu'on est trop sensible, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est vulnérable, parce qu'on revoit les bottes de paille sur la route et que ça fait ressurgir un souvenir qu'on croyait oublié, mais il n'était pas oublié. Donc de toute façon, c'est jamais 100%, c'est très bien comme ça. Et ce qui s'est passé avec ce que vous, le Maître Chaume m'a apporté, c'est justement de découvrir un partage, de découvrir comment maintenant les jeunes générations vont se servir des machines pour partager des informations. Alors, les machines ne sont pas toujours merveilleuses, hein. Il y a des rumeurs qui sont déclenchées par les machines. Là, il faudra trouver les moyens de contrôler ça. Mais ce n'est pas du tout le cas de Maître Chaume, où là, on a partagé du plaisir et des idées.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Boris. Ça nous va vraiment droit au cœur et on a aussi vraiment aimé travailler avec vous et on aime toujours travailler avec vous puisqu'on se voit ce soir. C'est une relation qui se poursuit dans le temps. On a dans votre masterclass, vous avez pensé avec nous, voilà, à des bonus. On en a un sur la théorie de la résilience, voilà, qui dure plus de 17 minutes. Donc voilà, vous développez la théorie en longueur. Il y a votre histoire personnelle que vous avez, voilà, accepté de nous partager et enfin une dernière leçon, et pas des moindres, donner du sens à sa vie. Et on en a parlé, voilà, on en parle aussi beaucoup en ce moment, trouver un job qui a du sens, changer de vie pour retrouver du sens. Et ça, on se rend compte en vous écoutant qu'avoir du sens, c'est vraiment un élément central pour aller bien et se remettre. Donc vous le voyez, on a toujours plus de 3000 personnes avec nous, Boris. Voilà, la masterclass de Boris, c'est vraiment un programme, voilà, exceptionnel. Un vrai parcours de vie d'une grande qualité. On est ravis de vous le présenter. Donc, si vous aussi, vous voulez progresser, vous libérer du passé, je suis assez contente de pouvoir ce soir vous proposer une offre. On a pensé, voilà, cette masterclass, normalement, elle est à 297 euros. Et on est prêt à vous offrir ce soir, vraiment pour vous inviter à travailler sur vous, une réduction de 50%. Normalement, cette masterclass, elle est disponible pendant 30 jours. Ce soir, on vous offre un accès vraiment illimité et à vie à la masterclass de Boris, car vous le voyez, la résilience, c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler tout au long de la vie. Donc, grâce à cette offre que l'on vous propose ce soir, voilà, ça va vous permettre vraiment de pouvoir être accompagné par Boris pendant un sacré nombre d'années. On vous offre aussi ce soir le livret de la formation. Ce sont 60 pages qui reprennent les éléments clés de la masterclass de Boris. Il y a des conseils, des exercices. Donc, c'est vraiment un petit manuel très utile au quotidien. Et on vous offre aussi l'accès à la communauté Mentor Show. Donc, ce soir, vous allez pouvoir accéder à tout ce contenu pour 147 euros au lieu de 297 euros. Et vous pouvez aussi, si cela vous arrange, payer en trois fois 49 euros. Si vous vous abonnez ce soir à la masterclass de Boris, voilà, vous allez recevoir vraiment un contenu très complet. Il y a 6 heures de leçons, il y en a 18 des leçons, 15 plus 3 bonus. Vous avez un programme qui a été conçu sur 30 jours que vous pouvez suivre tout à fait à votre rythme et vous allez pouvoir rejoindre notre communauté de plus de de 10 000 abonnés. Et ça, c'est autant d'échanges que vous allez pouvoir tisser avec de nouvelles personnes. Et Boris nous a expliqué à quel point l'attachement et tisser du lien social, c'était important. Donc, ça fait partie aussi de votre processus certainement de résilience que de communiquer avec des gens sur ce que vous avez vécu. Vous allez avoir un message qui va s'afficher sur le chat pour accéder justement à cette offre. C'est assez simple, hein, il vous suffit vraiment de cliquer dessus. Ou alors vous pouvez aussi entrer l'adresse qui s'affiche tout en haut de votre écran mtor.sh/boris. Et si jamais voilà, vous êtes un peu plus expérimenté avec votre smartphone, vous allez pouvoir scanner le QR code voilà avec le petit M au milieu là qui s'affiche juste au-dessus de nos têtes. Une fois que donc vous aurez passé ces étapes, vous allez renseigner toutes vos informations perso et de paiement sur une autre page. Et une fois que vous aurez terminé cette étape-là, vous aurez donc un dernier point qu'on vous offre aussi ce soir, c'est petite surprise, c'est vraiment l'accès illimité à toutes les masterclass de Mentor Show pendant un an. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous nourrir des conseils de Boris, mais vous allez pouvoir aussi élargir vraiment toutes les choses qui vous intéressent, qui vous passionnent. Vous allez pouvoir apprendre à écrire un roman avec Aurélie Valogne, vous perfectionner en pâtisserie avec Cyril Lignac, apprendre la méditation avec Christophe André. Voilà, c'est vraiment autant de choses, et on en a parlé avec Boris, qui font du bien au corps et à l'esprit et qui nous aident au quotidien à aller mieux et si on y travaille bien, à dépasser nos traumatismes. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre ce soir. C'est une offre qui vaut le coup et on est très contente de pouvoir vous la proposer. Boris, on va dans pas longtemps passer à la partie des questions-réponses, mais avant ça, je vous propose de regarder quelques avis des clients, des personnes qui se sont abonnées. Et j'ai l'impression qu'il y a un premier commentaire qui est pour vous. Merci pour ces leçons qui m'ont apporté un éclairage sur beaucoup de soucis rencontrés dans ma vie d'enfant. Il y a même une autre personne qui nous dit « Je réécoute au moins deux fois chacune des interventions, tellement elles sont riches. » Et une autre qui nous dit « J'ai décidé de reprendre ma vie en main après avoir visionné cette masterclass. » C'est pas rien, comme quoi, hein, ça peut déclencher vraiment quelque chose. Donc voilà, ça c'est super important. Et merci à tous vraiment de nous partager votre ressenti parce que voilà, c'est ça qui nous aide aussi à progresser, à vous proposer des contenus de qualité. On va maintenant, Boris, passer à ce moment des questions-réponses que vous attendez aussi et que les personnes attendent. Restez bien avec nous parce que on vous partagera en toute fin de conférence une leçon bonus et la bande-annonce de la masterclass de Boris. Donc ça sera à la toute fin. Donc restez bien avec nous si vous voulez découvrir en exclusivité la première leçon, la bande-annonce et la leçon, une leçon bonus de la masterclass de Boris. Alors, je vous cache pas, Boris, que sur les 3000 personnes qui nous suivent ce soir, il y a eu énormément de questions. On a eu, c'est assez effarant et stupéfiant, mais certainement une réalité, énormément de questions sur des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels pendant l'enfance. Et on a notamment cette question. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un homme ou une femme, mais c'est une question qui est revenue vraiment plusieurs fois. Comment faire quand on a été victime d'abus sexuels dans son enfance pour atténuer la présence des souvenirs et se servir de ces mauvaises expériences pour avancer plus léger? Et vraiment, il y a presque une dizaine de questions sur ce thème-là.
Alors, c'est un énorme problème éducatif. C'est que toutes les sociétés se sont faites par la violence. Et la sexualité n'est que destruction si elle est violente, alors qu'elle est construction si elle se passe avec des rituels d'affection et un projet d'existence. C'est-à-dire que la sexualité, c'est presque quitte ou double. Si on contrôle et on ritualise, on imprègne de culture la sexualité, ça fait partie des rencontres, ça fait partie du sens qu'on donne à la vie, le rendre heureux, la rendre heureuse, bien élever un enfant, etc. Donc c'est presque quitte ou double. En revanche, dans les cultures de la violence, qui ont toujours existé, qui ont été majoritaires même, majoritaires, et qui existent encore sur la planète, eh bien, il faut reconnaître que les hommes sont plus violents que les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes violentes, hein, mais c'est 80% d'hommes et 20% de femmes. Mais quand les femmes s'y mettent, je peux vous assurer elles savent faire. Mais c'est alors là, il y a un problème de tempérament biologique probablement. XX féminin est plus équilibré, plus stable que XY masculin. Parce que quand une altération est portée par un chromosome chez les filles, c'est compensé par un autre chromosome. Alors que chez un garçon, quand une altération est portée par un chromosome, l'autre chromosome est différent et ne compense pas la défaillance. Donc c'est une des explications fournies par la génétique de la violence. Mais l'éducation est majoritaire parce que les garçons bien élevés, qui est une culture de paix, et ça arrive encore plus souvent dans les cultures de guerre, parce que là, les rituels sont fracassés et que même dans les pays en guerre, les criminels de guerre, c'est-à-dire ceux qui décident de la guerre, demandent aux soldats de violer pour détruire plus sûrement l'adversaire. Le viol est une arme de guerre qui a toujours existé et qui existe encore aujourd'hui. Alors quand ça nous arrive, c'est très fréquent. Ça arrive beaucoup plus aux filles, mais ça arrive aussi aux garçons. On constate que certains sont peu traumatisés. C'est ceux dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui avaient acquis la confiance en soi, ceux qui, après l'agression, ont retrouvé une famille, des copains, pour les soutenir, et ceux qui ont le schéma qu'on a proposé pendant 1 heure, c'est-à-dire le schéma de déclencher un processus de résilience. Mais si on a acquis un facteur de vulnérabilité, et si surtout on est laissé seul après l'agression, alors là, on rumine, et là, on a du mal à s'en sortir. Parce que donc ça illustre tragiquement bien la nécessité de réfléchir avec des facteurs de résilience pour que les gens à qui ça arrive, les femmes beaucoup plus que les hommes, mais parfois les hommes aussi, puissent échapper à la prison du passé et se remettre à vivre. On sait ce qu'il faut faire. Mais cette question permet d'ajouter quelque chose que j'ai peut-être pas assez souligné jusqu'à maintenant, c'est l'importance de l'éducation affective et sexuelle. Et ça, c'est surtout les filles se débrouillent pas mal. Elles papotent, elles s'expliquent, elles ont des confidences entre filles. Les garçons le font pas. Et jusqu'à maintenant, la plupart des garçons étaient éduqués pour la violence. J'ai connu 2 guerres. Et dans les années d'après-guerre, quand j'étais au lycée, on apprenait aux garçons qu'ils devaient se préparer à la guerre et à la violence. Et qu'un garçon qui ne se bat pas, une femme l'est. C'est des mots que j'ai entendus. C'est des mots que prononçaient les mères. Donc, pour lutter contre cette agression sexuelle qui délabre, qui abîme beaucoup de femmes et parfois des hommes, je pense qu'il faut aussi agir sur la culture. Et pas seulement en punissant, la punition ne diminue pas le nombre d'agressions sexuelles. C'est l'éducation qui diminue le nombre d'agressions sexuelles. C'est le fait de découvrir par empathie, d'où l'importance des œuvres. Pour ça, il faut qu'il y ait des rituels culturels. On ne courtise pas une fille n'importe comment. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. Mais la pulsion sexuelle est un cadeau du ciel. C'est-à-dire que quand ça arrive, et ben ça fait des couples, ça fait des moments de bonheur intense, ça fait des familles. Donc merci la sexualité, mais pas merci la sexualité sans éducation.
On a une personne qui nous demande, Boris, peut-on à la fois transmettre un traumatisme et une grande sécurité à son enfant?
Alors, merci pour cette question, parce que on ne peut pas ne pas transmettre. Le simple fait d'être avec quelqu'un, même si on se tait, et beaucoup de gens traumatisés se taisent, croyant, désirant protéger leur enfant ou protéger leurs proches, ils se taisent. Eh bien, ça transmet l'angoisse du silence. Pourquoi papa se tait? Pourquoi maman, qui par le temps se tait quand on lui demande d'où elle vient. Pourquoi papa se fâche quand je lui demande pourquoi il a quitté ou pourquoi il ne voit plus la famille. Donc, si l'on est, mais on ne peut pas, d'où la nécessité des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'on peut faire dire au comédien, le comédien devient notre porte-parole. Ma fille, il m'est arrivé quelque chose, je n'ai pas la force de te le dire, pour moi c'est émotionnellement trop dur, et si je te le dis, tu vas être blessée, tu vas être anxieuse. Donc je ne peux pas parler parce que je n'ai pas la force et parce que je ne veux ne pas te blesser. Donc si je me tais, je vais t'angoisser parce que mon silence est angoissant. Qu'est-ce qui lui prend à papa? Il se tait. Va voir ce film, lis ce livre et on parlera du comédien. Le comédien est mon porte-parole et sur la scène de théâtre, il va dire ce que je n'ose pas dire ou ce que je n'ai pas la force de dire et ce que tu n'as pas la force d'entendre. Ce que les psychanalystes appellent le détour par le tiers est facilité, rendu possible par les œuvres d'art. Et là, on parlera du comédien, on parlera de l'inceste au cinéma. L'inceste a été mis en théâtre et mis en cinéma de manière folle depuis Oedipe, depuis le théâtre grec, depuis... Il y a énormément de films. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas parler crûment. Ton grand-père, que tu aimes tant, ben, il m'a violé. Comment peut-on dire ça à sa fille? C'est pas possible. En revanche, on peut lui dire, va voir la Oedipe, lis Chateaubriand, va voir le film de Louis Malle, et on en parlera. Et très rapidement, la communication se fait, la communication affective se fait, et quand j'étais praticien, beaucoup d'enfants me disaient qu'ils avaient compris très vite que le comédien racontait l'histoire que maman n'avait pas la force de dire. Donc, je pense que là, il y a encore une méthode, un moyen de déclencher la résilience, mais se taire pour protéger, si on parle, on transmet le traumatisme. Si on ne parle pas, on transmet l'angoisse. C'est pas facile, mais par bonheur, il y a le détour par l'œuvre d'art, et à ce moment-là, on peut faire ce qu'il fallait faire. Donc ça transmet, mais on peut travailler la transmission.
Merci beaucoup, Boris. On a aussi des questions de personnes qui ont un enfant malade, qui ressentent beaucoup de tristesse, bien sûr, mais aussi de culpabilité, et qui, du coup, ont trouvé un défouloir. Alors, ça peut être dans le sport ou dans des activités autres, mais qui, finalement, n'en parlent jamais et ont l'impression que ces activités ne sont qu'un pansement sur une jambe de bois et que, mine de rien, ça ne va pas si fort que ça. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces parents qui ont un enfant malade ?
Mais je crois que c'est bien dit, il faut faire du sport pour être moins mal, mais c'est pas ça qui va tout résoudre. Alors, effectivement, une des plus grandes épreuves de la vie, c'est un enfant malade. Alors là, et se sentir coupable, c'est inévitable, puisque on a mis l'enfant au monde, on est donc responsable de tout ce qu'il devient, et s'il est malade, c'est qu'on a fantasmatiquement, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. J'ai pas fait mon travail de père, j'ai pas fait mon travail de mère, c'est pour ça que mon enfant est malade. C'est pas vrai dans le réel. Parfois c'est vrai dans le réel, hein. Les parents maltraitants, ça existe, hein. Parfois c'est vrai dans le réel, mais souvent c'est pas vrai. C'est un sentiment de culpabilité, c'est pas une culpabilité réelle. Ça torture tout autant. Et même les pervers qui commettent des actes affreux, souvent sont pas coupables. Ils se sentent absolument pas coupables. Donc la culpabilité, c'est une souffrance, mais c'est presque une preuve de morale. J'aurais tellement voulu aider mon enfant, et il est malade. Et alors, je vais faire du sport, je suis moins mal quand je fais du sport, mais je n'ai pas réglé le problème. Donc il faut faire du sport et tisser un lien avec son enfant malade, c'est-à-dire participer aux soins, lui expliquer, lui dire... quand j'ai eu cette maladie, j'ai surmonté comme ça, j'ai lu un livre où j'ai le témoignage d'une dame qui a eu la même maladie que toi, ça a été difficile, mais et expliquer les principes de la résilience. Elle a souffert, ça a été difficile, mais elle a réussi à guérir. Si on se soigne, c'est parce qu'on espère guérir, ça marche ça marche souvent, ça marche de plus en plus, mais ça ne marche pas toujours. Mais à ce moment-là, en faisant les deux, je me protège en faisant du sport et je tisse un lien avec mon enfant malade en lui expliquant ce que j'ai compris, que je me trompe moi aussi, que je ne suis pas un père parfait, je ne suis pas une mère parfaite, mais que je fais le plus que je peux.
Nous donner comme conseil justement pour faire face. Il y en a même qui nous disent voilà comment on peut faire barrage aux images du traumatisme, les odeurs, les lieux, les bouffées d'angoisse. Il y a beaucoup de questions là-dessus.
Oui, mais ça, on en a parlé pendant 1 heure, c'est-à-dire que ce que vous venez de dire, c'est ce qui caractérise la clinique du syndrome psychotraumatique. On perçoit une odeur qui rappelle le drame. Une odeur de sang, une odeur de poudre, une odeur de brûlé qui rappelle le drame. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai vu les bottes de paille sur la route. Ça m'a rappelé l'angoisse de la guerre. Et ça m'a réveillé une bouffée d'angoisse. Donc voilà, c'est exactement ça. Ça n'empêche pas le processus de résilience. Alors l'angoisse, il y a une angoisse physiologique. Nous, êtres humains, comment on se représente le temps, on se représente la mort, donc on est forcément anxieux. Donc on est obligé de mettre en place des mécanismes de protection contre l'angoisse, ce qu'on a dit pendant 1 heure, le lien, la parole, l'affection. L'art, tout ce qu'on a débattu pendant 1 heure, il faut y travailler, parce que c'est comme ça qu'on contrôle, on n'échappera pas à l'angoisse, on a tous plus ou moins des bouffées d'angoisse, mais il y a des gens pour qui c'est une immense souffrance, mais même les gens équilibrés ont leur moment, leur bouffée d'angoisse. Eh bien, mais ils souffrent moins longtemps parce que l'éducation, la famille, le contexte leur a permis de mettre en place des mécanismes, des processus, des facteurs de protection qui leur permettent de ne pas souffrir longtemps d'angoisse, alors que ceux qui sont seuls, sans famille, ruminent, ceux qu'on a abandonnés, sans les aider, se retrouvent seuls, et eux, la vie, l'existence, la culture, la famille, leur ont laissé développer beaucoup trop d'angoisse, un syndrome psychotraumatique. Mais, je le redis, après le Bataclan, 1 an après le Bataclan, 90% des syndromes psychotraumatiques avaient disparu. Parce que les psychologues et les non-psychologues, les voisins, les amis, les copains, la famille, les prêtres, les artistes, avaient mis en place tout ce qu'on a débattu pendant 1 heure.
Il y a une personne qui nous demande, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent empêcher la résilience?
Mais oui, j'aurais dû en parler, bien sûr. Les facteurs qui empêchent la résilience, c'est d'abord, alors ça j'en ai parlé beaucoup, c'est l'isolement affectif. L'isolement affectif ou même l'isolement sensoriel provoque une dysfonction cérébrale qui facilite le syndrome psychotraumatique. Alors là, plus on reste seul longtemps, plus la résilience sera difficile. Le deuxième facteur, c'est la honte. Parce que la honte, c'est une image de soi dévalorisante. Donc elles peuvent écrire, elles peuvent aller voir un psychothérapeute, elles peuvent s'engager, tout ce qu'on a dit, dans une association. Beaucoup de femmes agressées sexuellement s'engagent dans des associations, elles ont bien raison. Ça leur permet de se défendre de manière culturelle. Mais la honte est un facteur qui empêche la résilience. Et le troisième facteur, c'est le non-sens. Ce qui m'est arrivé est stupide, ce qui est souvent vrai en plus. Et tout à l'heure, vous avez dit une expression que je ne peux pas partager, vous avez dit la vie a un sens. Je crois que c'est nous qui donnons un sens à la vie. Et on donne un sens à la vie par l'engagement physique, moral, affectif, social, financier, artistique, etc. C'est par l'engagement qu'on donne sens. La vie n'a pas de sens. C'est nous qui devons donner un sens à la vie. Si on veut savoir où on va, donner un sens, c'est savoir où on va. D'où là, votre question, merci de me l'avoir proposée, sur les petits projets, c'est les petits rêves, les rêves accessibles, qui nécessitent quelque chose qui n'est pas angoissant, mais qui nécessite un pas chaque jour pour se reconstruire. Donc, en un mot, les trois facteurs qui empêchent la résilience, c'est la solitude sensorielle, la honte et le non-sens.
Il y a une dame qui nous demande, qu'est-ce que réussir sa résilience? À quel signe voit-on qu'on a vraiment surmonté les traumatismes et pas qu'on a juste survécu comme on a pu? Est-ce qu'on peut réussir sa résilience?
Alors, c'est une expression que moi, j'emploie pas, hein. J'emploie processus évolutif de résilience. On y travaille tous les jours pendant les 120 ans d'existence qui nous sont dus, parce on doit vivre 120 ans. Eh bien, tous les jours, on doit y travailler, on doit parler, réfléchir, et ça se transforme en plaisir. La réussite sociale, la réussite pour moi, c'est un bénéfice secondaire de la névrose. Il y a des gens qui sont capables de travailler 18 heures par jour pour réussir. Ces gens-là réussissent. Ils sacrifient leur famille. Ils sacrifient le plaisir de vivre. Est-ce que la réussite vaut ce prix? Il y a des gens qui pensent que ils sont tellement névrosés qu'ils pensent que je veux réussir à tout prix. Ils réussissent. Leur famille est foutue et ils se demandent pourquoi. Ils ont des bouffées d'angoisse qui sont des véritables tortures. Donc, j'emploie pas cette expression. Réussite n'est pas un mot qu'on emploie, de même que le mot victime n'est pas un mot qu'on emploie dans les milieux de la recherche sur la résilience. Victime, c'est un mot qu'on emploie dans les tribunaux. Ça existe, hein. Il y a des gens qui sont victimes, il n'y a pas de doute. Mais c'est un mot juridique. C'est pas un mot de résilience. Pépin de la vie. Même si on a fait partie des 70% des enfants bien partis dans l'existence, ça les protège pas pour la vie. Ils peuvent être collés au bac, ils peuvent avoir l'appendicite, ils peuvent avoir une bêtise de la vie qui fait souffrir, qui les fait souffrir. Ils peuvent avoir une peine de cœur. Les adolescents connaissent ça. Et les peines de cœur, ça fait beaucoup souffrir. Bon, ben voilà, ça fait partie de l'existence. On est bien parti dans la vie. On a appris à aimer, on a appris à parler. Et puis on a une peine de cœur. On est très malheureux. Et puis on se remet à vivre.
Merci Boris. On a une dernière question qui peut faire office de conclusion. Est-ce que la résilience correspond à une forme de réparation, nous demande une dame.
Alors, merci pour cette question. La réparation, c'est se revenir à l'état antérieur. J'avais une jambe cassée, on m'a mis un plâtre, je suis bien réparé, ma jambe est redevenue toute droite. Ça, c'est la réparation. C'est pas la résilience. La résilience, c'est j'ai transformé mon malheur. J'ai transformé mon malheur en écriture. J'ai transformé mon malheur en m'engageant dans une association. J'ai transformé mon malheur en militant pour lutter contre les inégalités sociales. Ou par exemple, on voit actuellement qu'il y a des quartiers qui sont en grande difficulté. Il y a beaucoup d'analphabètes, alors que d'autres quartiers, il n'y en a pas. J'ai connu ça quand j'étais enfant. J'ai été analphabète. J'ai réussi à apprendre à lire et à écrire. Je vais aller dans ces quartiers et je vais transformer mon humiliation d'analphabète, je vais le transformer en éducation, en cadeau que je vais donner à ces enfants pour qu'ils ne deviennent pas analphabètes. J'ai donc transformé ma blessure et j'en ai fait quelque
Son bonus de la masterclass de Boris. Je vous rappelle que voilà, ce soir, vous pouvez profiter d'une offre spéciale pour découvrir tout le travail de Boris. Une offre voilà, à 147 euros au lieu de 297 euros et un accès à vie à cette masterclass. Comme Boris l'expliquait, la résilience, c'est un travail qui se fait tout au long de l'existence. Boris, est-ce que vous voulez partager avec les personnes qui sont avec nous depuis le début de la soirée un dernier mot, une pensée, un encouragement, une philosophie de vie.
Ah ben les questions ont été un encouragement pour moi, parce que toutes ces questions ont été très stimulantes et ça prouve qu'on a bien partagé un savoir et qu'on a bien cheminé ensemble. Donc merci grâce à vous aussi, parce qu'avec vos questions, on a passé 1 heure et demie très agréable, j'espère utile.
Très utile, c'est sûr. Merci Boris, ça a été un plaisir pour moi et puis pour toute l'équipe de Mentor Show, voilà, d'échanger avec vous ce soir. Alors on va partager, comme je le disais, la bande-annonce et la leçon bonus. Donc il faut que vous restiez bien en ligne, ne raccrochez pas, restez simplement connectés. Je vais juste me permettre de couper votre micro et votre caméra vous pourrez vous déconnecter une fois les deux vidéos passées. Merci à nouveau Boris, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère qu'on se reverra, qu'on se reparlera rapidement. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous et à bientôt.
À bientôt, merci.
Merci à vous.
les épreuves sont inévitables au cours d'une existence et 50% des gens souffrent d'un traumatisme. J'ai été motivé pour la psychiatrie au cours de la Seconde Guerre mondiale. J'ai perdu presque toute ma famille. J'ai été arrêté et emprisonné à l'âge de 6 ans et demi. Tout le reste de ma vie, il a fallu que je cherche absolument à comprendre ce phénomène de façon à pouvoir reprendre un peu de liberté intérieure. J'ai écrit une soixantaine de livres grand public et professionnels, tous consacrés à la réparation de la blessure. Je me suis donc intéressé à la résilience, qui est une définition extrêmement simple. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Après un traumatisme, qu'est-ce qu'on fait ? On peut se soumettre, et dans ce cas-là, c'est le syndrome psychotraumatique, ou on peut se bagarrer pour se remettre à vivre, mais pas comme avant, puisqu'on a été traumatisé. J'ai spécialement écrit pour cette masterclass des méthodes, des applications pratiques, des travaux sur la résilience, et je vais essayer de les partager avec vous. Comment dépasser un traumatisme ? Comment cesser de ruminer son passé ? En ne pensant qu'à la souffrance traumatique. La pire des violences, c'est la solitude. La neuroimagerie, maintenant, mesure comment un enfant régulièrement insulté provoque des anomalies du corps calleux, c'est-à-dire des fibres qui passent d'un hémisphère à l'autre et qui permettent l'harmonisation des informations. Si vous souhaitez vous réconcilier avec vous-même et avec votre passé, vous pouvez suivre ces masterclass où vous serez en mesure de réorganiser votre vie et de reprendre une nouvelle existence. Je suis Boris Cyrulnik et voici ma masterclass.
Alors bon, on va se focaliser ensemble sur la résilience, vu que c'est un sujet qui passionne beaucoup mon audience et qui me passionne. Et peut-être pour qu'on s'aligne dans plusieurs interviews, que tu dis justement que des fois la résilience, il y a des visions différentes de ce que c'est. C'est quoi pour toi la résilience ?
La résilience, c'est une définition bébête. On a un traumatisme, l'agression sexuelle, l'abandon, la guerre, la précarité sociale. Qu'est-ce qu'on fait ? Ou bien on se soumet. Et dans ce cas-là, on est vaincu, on est blessé, on souffre, ou bien on se rebelle et on cherche en soi et autour de soi qu'est-ce qui pourra nous aider à reprendre un bon développement. C'est pas le développement puisque on a été blessé, c'est un développement, mais bon quand même, ça veut pas dire qu'on oublie, mais ça veut dire qu'on fait quelque chose de sa blessure et on se remet à vivre. C'est quand même une définition logique et bébête.
J'ai demandé à mon audience quelles questions ils avaient pour toi, et il y a un truc qui est ressorti énormément, donc peut-être que tu es habitué à cette question. Je vais te lire un des commentaires, mais qui illustre en fait beaucoup de personnes. Donc, avec mes deux grands frères, nous avons perdu notre père à la suite d'une tumeur au cerveau à l'âge de 41 ans. Malgré une éducation et enfance similaire entre nous trois, nous n'avons pas eu la même résilience face à cet événement. J'avais pour ma part 5 ans et mes frères 12 et 15 ans. Et la question, c'est, donc ça me questionne sur comment fonctionne la résilience et pourquoi nous ne sommes pas tous égaux. Pourquoi moi et pourquoi pas lui ?
C'est une très très bonne question, très stimulante, parce que c'est exactement comme ça qu'il faut poser la question. Trois enfants, face à un même événement, trois réactions différentes. D'abord parce qu'ils n'ont pas le même âge, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes parents. L'aîné n'a pas eu le même parent que le cadet.
Ouais, parce qu'ils ne sont pas le même entre quand il avait 12 ans et 5 ans.
Quand le cadet arrive au monde, ses parents sont plus âgés, et dans la niche sensorielle qui entoure l'enfant, il y a déjà deux aînés. Donc le développement n'est pas du tout le même. Donc ces enfants-là, avant le trauma, la tumeur du cerveau, ont acquis des facteurs de protection différents, ou des facteurs de vulnérabilité. Donc le même événement
la mort du père par une tumeur cérébrale provoque des réactions forcément différentes selon les enfants. Et c'est la règle, même quand il n'y a pas de trauma, chaque enfant est sculpté différemment par son milieu, donc chaque enfant réagit différemment au même événement.
Et du coup, alors, sur la même question de manière plus large, qu'est-ce qui fait que... J'ai fait une interview avec Marc Simoncini, qui est le fondateur, enfin, cofondateur de Mythique, et je lui demandais d'où est-ce que tu trouves cette énergie, cette motivation d'entreprendre. Et il me dit quelque chose du genre, tous les entrepreneurs que je connais, il y a eu un moment, un événement difficile, et il a fait ce geste comme ça, il y a eu un truc qui a tapé fort, et ça crée un moteur qui tourne dans le bide, j'essaie de le paraphraser, et c'est de là que vient ma motivation et celle de beaucoup d'amis. Qu'est-ce qui fait qu'un Marc Simoncini, c'est cet événement difficile de son enfance crée un moteur, là où pour d'autres, eh ben, vont pas réussir à le transformer?
Eh bien voilà, c'est la définition de la résilience que je proposais tout à l'heure. Certains parmi nous ont acquis très tôt, dans l'enfance préverbale, des facteurs de protection, parce que la mère était disponible, parce que le père sécurisait la mère, parce que la première écologie d'un enfant était bien en place. Le malheur arrive, ils utilisent les facteurs de protection qu'ils ont acquis au cours de leur enfance, et le geste, c'est de ça frappe dans la main, je souffre, je le couds, je l'ai reçu, mais j'affronte, et je rebondis, et je développe un autre développement. Alors que ceux qui, très tôt, dans l'enfance préverbale, les premières années de la vie, les deux, trois premières années de la vie, ont acquis des facteurs de vulnérabilité, mère malheureuse, père violent ou absent, enfin, ou guerre, ou précarité sociale, enfin les causes du malheur, ainsi dit, on ne se rend pas forcément compte. Ces enfants ont acquis des facteurs de vulnérabilité. Quand le même coup arrive, ils ne peuvent pas rebondir parce qu'ils n'ont que des facteurs de vulnérabilité entre eux. Et ceux-là, bah, ils sont cassés. Et là, il n'y a pas de résilience, ou la résilience est très difficile. Et cette résilience-là, pour eux, il faudra qu'il y ait des professionnels. Alors que le premier, le même événement, ils vont le surmonter parce qu'ils sont capables, ils ont acquis les facteurs de protection. Donc il y a une très grande injustice psychologique, hein, face au trauma. Il y a des gens, des enfants ou des adultes qui rebondissent et qui affrontent. Le coup, on le reçoit, le coup, on l'a reçu, mais ils affrontent plus ou moins bien, alors que ceux qui ont été vulnérabilisés au cours des premières années de leur vie, eh ben, ils n'ont pas l'équipement pour affronter. Donc, eux, ils pourront déclencher un processus de résilience, mais plus tard, et il faudra travailler, alors que pour ceux qui ont acquis des facteurs de protection, ils vont presque jouir, éprouver du plaisir à affronter, à se bagarrer, à monter une entreprise.
Une question par rapport à l'éducation. L'éducation, elle a beaucoup évolué dans les 60 dernières années, même plus, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de mouvements autour de l'éducation positive. Et ce que je peux observer autour de moi, dans mon audience ou dans mes clients, c'est parfois, j'ai tellement envie de bien faire, j'ai tellement envie justement d'apporter ces ressources dans les 1000 premiers jours et puis après, que j'en viens à surprotéger, à vouloir éviter à mon enfant la difficulté, le challenge. Donc ça soulève plein de questions dans ma tête, je vais essayer d'en formuler une. Comment peut-être je trouve l'équilibre en tant que parent dans apporter les bonnes choses? Déjà, ça serait quoi les bons ingrédients dans les 1000 premiers jours pour aider l'enfant? Et est-ce qu'il y a des limites à...
Scanner aux orphelins roumains, aux enfants abandonnés de Roumanie, leur cerveau est abîmé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le réparer, mais il faudra travailler pour le réparer. Il est réparable, mais si on ne fait rien, on ne le réparera pas.
On voit quoi sur le scanner?
On voit des atrophies localisées, on voit les atrophies des deux lobes préfrontaux, qui sont le socle neurologique de l'anticipation, l'atrophie du système limbique, qui est le socle neurologique de la mémoire et des émotions. C'est des enfants qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions.
Ça veut dire qu'ils ont peu accès à cette partie du cerveau, qu'elle est peu développée? Ça veut dire quoi, du coup?
Le cerveau n'a pas été stimulé, parce qu'ils ont été isolés.
Okay.
Personne n'a joué avec eux, personne ne leur a parlé, ou alors ils n'ont connu que la violence. Mais la pire des agressions, c'est le désert affectif, qui abîme le cerveau. C'est résiliable, et contrairement aux préjugés, la résilience neuronale, c'est la plus facile à déclencher. Mais il faut agir autour de l'enfant. Si on propose à l'enfant un substitut affectif, une mère, un éducateur, un professeur, un moniteur de sport, quelqu'un qui stimule l'affectivité de l'enfant, la résilience neuronale se déclenche très facilement. Mais dans ces enfants abandonnés, souvent on les laisse abandonner. Et là, la résilience devient difficile. Alors, dans cette manière de poser la question, on se rend compte que ce qui sécurise l'alentour d'un enfant, c'est la femme qui l'a porté. Si elle a été sécurisée, ça se passe, il n'y a pas de problème. Les mères disent, cet enfant, j'ai rien fait, il s'est développé tout seul. C'était un enfant facile. C'était un enfant facile parce qu'autour de lui, il avait tout ce qu'il fallait pour se développer. Alors que beaucoup d'enfants deviennent des enfants difficiles parce qu'ils n'ont pas autour d'eux ce qu'il faut pour se développer. Il n'y a pas la sécurité affective qui est la base de la résilience. Sécurité affective. Mais la sécurité affective s'imprègne dans un enfant si autour de lui, la mère, le père, le substitut, le père, on ne sait plus très bien ce que c'est aujourd'hui, hein, mais il y a...
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Ben, qu'est-ce que c'est qu'un père ? Il y a des cultures qui considèrent que l'amant, ce n'est pas le père. Nous, en Occident, on pense que le père, c'est celui qui a planté l'enfant dans madame. Il y a beaucoup de cultures qui considèrent que c'est l'amant, c'est pas le père. Le père, c'est celui qui est désigné par la culture pour s'occuper de l'enfant. En Afrique, il y a beaucoup de cultures qui pensent que c'est le frère de la mère. Ce que lui, que nous, on appellerait l'oncle maternel. Il est désigné par la culture pour s'occuper de l'enfant, s'y attacher et en être responsable. C'est le père. Ça n'a rien à voir avec l'amant. Donc, il y a plein de formes familiales différentes. Mais dans notre culture, c'est en train de se mettre en place parce que maintenant, on voit qu'un enfant a eu un père qui n'est pas là. Il a un beau-père qui est là ou qui n'est pas là. Il a un deuxième beau-père. Et on voit que la notion de père en Occident est en train de se diluer. Donc ça veut dire que les enfants de notre culture n'ont pas les repères qu'ils avaient avant. Avant, il y avait un peu trop de pères. Il y avait le père napoléonien qui était le représentant de l'État dans la famille. Sauf que le père napoléonien, il travaillait 15 heures par jour à la mine ou à l'usine. Donc il n'était jamais dans sa famille. C'était les femmes qui géraient tout. Et le père était réduit au rôle de père fouettard. Alors qu'actuellement, les pères, les nouveaux pères, veulent prendre une place affective. Et là, pour répondre à votre question... Quand on a eu un problème dans son enfance, un problème probablement de difficulté affective, on pense, on croit, on désire offrir à notre enfant ce dont on a manqué. Et on en fait trop. Et en faisant trop, on entoure les enfants qui se sentent un peu dans une prison affective. Et le bon rythme, c'est d'être là, parce que sinon l'enfant ne se développe pas, et de temps en temps, de prendre un peu de distance. Je suis, moi ton père, je suis à ta disposition, mais attention, j'ai une personnalité, j'ai aussi une aventure à faire, donc de temps en temps je m'absenterai, mais j'aurai planté dans ton esprit la confiance en toi, et tu supporteras mon absence, mon départ. Et quand je reviendrai, il y aura un rebond d'attachement. Je serai content de te revoir, toi mon père, je serai content de te revoir. Donc il y a un souffle, un rythme à trouver entre « je suis là, mais de temps en temps je me reprends, je suis pas là, mais je reviendrai. N'aie pas peur, j'ai confiance, et confiance, je reviendrai. » Et ce rythme-là, les pères qui surinvestissent leur fonction de père souvent n'ont pas ce rythme.
Alors justement, ça soulève une question qui est que si je suis papa et que j'ai vécu une enfance où j'ai, moi, souffert d'un manque affectif, je pourrais avoir tendance à vouloir compenser et ça va se jouer aussi, ça va se jouer beaucoup inconsciemment. Comment arriver, en tant que papa par exemple, à prendre conscience de cette addiction à vouloir compenser, cet automatisme qui va au-delà du raisonnement, c'est pas juste... Ah oui, je vais protéger mon enfant et prendre conscience que je suis peut-être en train d'aller trop dans l'opposé.
Eh bien, le père est aussi une personne. Le père n'a pas pour fonction de se sacrifier. C'est aussi une personne et les enfants sont rassurés par une image paternelle qui devient une personne. Mon père a une aventure. C'est mon père, il me sécurise. C'est un modèle pour moi, un modèle de développement. Mais il a son aventure. Loin de moi. Donc si on fait un autre projet pour soi, l'enfant, il a son père présent, je suis content de te voir, tu me rassures, et son père absent, Un père et même une mère doivent être absents de temps en temps pour que l'enfant apprenne à supporter l'absence. Ça muscle l'enfant d'apprendre à supporter l'absence. Mais il ne faut pas abandonner l'enfant. Il faut lui dire « je reviendrai, je suis là ». Donc il faut que l'enfant soit sécurisé. Et à ce moment-là, moi, ton père, je m'autorise à avoir mon aventure. Mais je t'en ferai partie, je t'en ferai part, je te raconterai ce qui m'est arrivé et ça te servira de modèle de développement. Et on voit qu'il y a des pères, les pères enseignants, les pères sportifs, par exemple, sont de très bonnes images pour les enfants. Actuellement, les enfants d'enseignants sont ceux qui se développent le mieux parce qu'ils ont un père présent, puis pendant les vacances, ils partent ensemble, ils partagent, puis le père est absent parce qu'il a un travail à faire. L'enfant imagine le travail de son père, le rythme, la respiration est en place. Il est là, de temps en temps il n'est pas là, mais il reviendra. Alors qu'un père pas là, c'est la catastrophe, un père absent, c'est la catastrophe, et un père tout le temps là, c'est pas mieux.
Oui. Une question, je ne sais pas si tu as des recherches sur ce sujet-là, ou une explication. Alors, j'ai pas de manière scientifique fait cette étude-là, mais en tout cas, je trouve ça... Enfin, c'est un schéma qui se répète beaucoup chez beaucoup de mes clients entrepreneurs et même aussi dans les interviews que je réalise d'entrepreneurs. Il y a un schéma assez récurrent pour les hommes entrepreneurs, c'est d'avoir quelque chose à prouver au père. Et je le retrouve au moins chez 80% des entrepreneurs hommes que j'interview ou j'accompagne. Et ça me concerne aussi. Alors que ce soit conscient ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose autour de je veux montrer à mon père qu'il avait tort, ou je veux lui prouver que je suis à la hauteur, ou je veux le battre dans le sens aller au-dessus de lui. Quand tu expliques ça, et est-ce que c'est quelque chose que tu as observé?
Oui, tout à fait. Et ça, c'est une bonne image identificatoire. J'ai quelque chose à prouver. Mon père pense que je suis mauvais à l'école, je veux lui prouver qu'il a tort. Mon père pense que je suis pas courageux, je veux lui prouver qu'il a tort. Et ça reste toute la vie. Mais c'est un bon stimulus. Par exemple, j'ai remis il y a pas longtemps une Légion d'honneur à un homme à Marseille. Il l'a pas demandé et il a été surpris de le voir un jour dans le journal qu'on lui avait attribué la Légion d'honneur. Et cet homme de 60 ans, qui est une figure, un journaliste, un bon représentant, et il me dit, j'ai été étonné, j'ai aussitôt pensé, mon père serait fier de moi. Il a 60 ans, et toute sa vie, il a fait sa vie, c'est pas très conscient, mais à l'occasion de cet événement, c'est devenu conscient, et ça l'a surpris. Ça alors, j'ai la Légion d'honneur, mon père serait fier de moi, j'en reviens pas d'avoir eu cette réaction. Et je crois que ça reste au fond de nous, toute notre vie. Ça veut dire que on a une épreuve à surmonter. Il faut qu'il y ait des épreuves à surmonter, mais l'épreuve, c'est pas le trauma. Dans l'épreuve, on reste soi-même. On fait des efforts et on donne sens à nos efforts. Je veux prouver à mon père, même s'il est mort, je veux lui prouver. Le père de ce journaliste était mort. Mais il voulait, dans son
imaginaire,
voilà, il voulait quand même continuer, c'était inscrit dans sa mémoire, hein, ça, je veux lui prouver que, tu te rends compte, j'ai la Légion d'honneur. C'est-à-dire que c'était une trace qui était restée dans sa mémoire. Et ça veut dire que face aux inévitables épreuves de la vie, il y a des gens qui réagissent en affrontant. Et ça, c'est un facteur précieux de résilience. Et d'autres, au contraire, je reprends le raisonnement de tout à l'heure, d'autres, au contraire, qui, ayant été vulnérabilisés quand ils étaient bébés, avant l'apparition de la parole, dans les premières années, ont acquis des facteurs de vulnérabilité. Et quand les inévitables épreuves de la vie arrivent, eh ben, ils ne peuvent pas affronter. C'est faisable. Mais pas la même méthode. Il faudra là les entourer, les soutenir. Il faudra travailler verbalement pour faire venir en conscience ceux qui ne peuvent pas affronter parce qu'ils ont été vulnérabilisés par leurs premiers 1000 jours. Mmh.